pilote de l'Alaska par K.A. Schwarzkopf. Quatrième cassette, première farce, page 117. Chirurgie en plein vol. Tenant un imperméable au-dessus de sa tête, Nels dirigeait les malades qui faisaient la queue. Tout le petit village de Quickpack était venu à la consultation. Des petites vieilles aux cheveux blancs, des vieillards courbés en deux, des femmes rondes comme des bulles de savon, des hommes à la poitrine large comme une grande voile, des enfants qui sautillaient comme des balles. Tous ces Esquimaux, à la peau sombre et tannée, aux yeux brillants, souriaient, jacassaient dans leur langue, aux mots longs comme des hurlements de loups. Personne ne faisait attention à l'averse et aux caprices de la tempête. Les peaux de phoque de leurs costumes multicolores les isolaient de la pluie. L'eau qui tombait sur leurs visages ruisselait dans leurs rides et leurs fossettes. Quickpack ressemblait à n'importe quel autre village de la côte Esquimau. Un groupe de misérables huttes, pleines de courants d'air. Les plus gros trous étaient bouchés avec du papier goudronné et des morceaux de peau de bête. Il y avait une multitude de séchoirs à poissons, de tous les modèles et de toutes les dimensions, et, près de la plage, toute une armée de fûts d'essence, une armée pitoyable, cuirassée de rouille. Les Esquimaux équipaient désormais leurs embarcations de peau avec des moteurs de hors-bord et utilisaient une grande quantité de carburant. Le docteur Thurman paraissait soucieux. Il avait compté sur 15, peut-être 20 malades au maximum, et il en voyait arriver au moins 200. Certes, à peine 1 sur 10 était réellement malade, mais tous tenaient à entrer dans l'avion et à être examinés. Cela demandait un temps énorme, mais comment ne pas leur donner satisfaction? S'il en refusait un seul, il savait que tous les autres, les malades comme les bien portants, rentreraient aussitôt chez eux. On le considérerait comme un mauvais médecin et il ne verrait plus jamais l'ombre d'un Esquimau. John travaillait dans la salle des consultations. Il notait sur un registre et sous la dictée du médecin le nom du malade et les symptômes qu'il ressentait. Écrire les noms était le plus difficile. Certains étaient d'une telle longueur qu'une ligne ne suffisait pas. Le docteur épelait de son mieux. Bien que connaissant assez bien leur langue, il avait souvent du mal à comprendre ce que disaient les malades. Kayagialumiuk, K-A-H-I-A-G-I-A-L-U-M-I-U-K, dicta le docteur. Anoniagoluk, comme prénom, A-N-O-N-I-A-G-O-L-U-K. Un homme ou une femme? Demanda John qui lui tournait le dos. Un homme. Âge, environ 35 ans. Santé comme un ours. Faut-il l'écrire? Écris. Il est important qu'il voie que tu t'occupes de lui. Il ne saisit pas un mot de ce que je te dis. Il ne connaît que l'Esquimau. Note aussi ce que je lui prescris. 10 pilules de sucre.
10 pilules de sucre?
Bien, et au suivant. Aguichuluc, A-G-U-I-C-H-U-L-U-K, femme. Tigara, comme prénom, T-I-G-A-R-A. Âge, environ 55 ans. Elle dit 80, les Esquimaux font toujours ainsi. Ce n'est pas qu'ils mentent, ils ne mentent jamais, mais ils croient que les années passe plus vite qu'elles ne le font en réalité. Diagnostic, abcès purulent au bras gauche. Il faut faire une incision tout de suite. Veux-tu venir m'aider et tenir la patiente? Faut-il préparer la table d'opération, docteur? Inutile. Prenons le fauteuil. Donne-moi l'alcool et petit bistouri à gauche dans l'étui. Merci. Assieds-toi à droite de la malade et tiens-lui le bras droit. Ce sera fait en 30 secondes.
Et l'anesthésie? Il faut bien l'anesthésier.
Oh, ça ne servirait à rien. Les Esquimaux ne sont pas aussi sensibles que nous à la douleur.
la seringue pour l'anesthésie l'effraierait. Un bistouri, au contraire, c'est un objet dont ils ont l'habitude. Mais évidemment, ça fait mal. Je me rappelle avoir déjà ouvert un abcès à cette vieille l'année dernière, quand elle est venue à Nome. Elle n'a pas dit un mot pendant toute l'opération, mais elle voulait mordre quelque chose. Faut-il aller chercher un bout de bois ou un bifteck, docteur ? Non, il faut que ce soit quelque chose de vivant, quelque chose qui la rassure et qu'elle connaisse. Pendant l'accouchement, beaucoup de femmes esquimaux mordent un proche parent au moment où elles souffrent le plus. Cette femme a mordu le bras de son mari. Je veux voir s'il est là. Le mari entra. Un géant souriant, aux yeux bridés, qui puait le phoque fraîchement écorché. Il enleva le vêtement qui couvrait le haut de son corps et tendit à sa femme un gros bras musclé couvert de cicatrices de morsures. Tu vois bien, dit le docteur, il a déjà servi de sédatif. Un mari peut-il avoir plus de dévouement pour sa femme ? L'opération fut vite terminée. Personne ne souffla mot. L'abcès vidé et pansé, le médecin dut mettre un autre sparadrap sur la morsure. Le mari fut si content qu'il fit valser le docteur. Tout l'avion en trembla. La plupart des Esquimaux voulaient payer la consultation, mais le docteur faisait chaque fois un geste large et répondait en riant. « C'est gratuit, mes enfants, ça ne coûte rien. La mission luthérienne de Nome fait ce voyage. C'est la meilleure façon de prêcher l'amour de son prochain. » Toutefois, nombreux étaient ceux qui venaient glisser des cadeaux par la porte de la cabine. On voyait arriver une paire de mukluks, M-U-2-K-L-U-K-S, des bottes de la région, ou un joli petit objet en ivoire sculpté. Et quand John entra un instant dans la cabine du pilote, il trouva, suspendue à l'essuie-glace, une ravissante veste en peau de jeune phoque. Une veste encore plus jolie que celle qu'Highland Wheeler, le pilote esquimau, lui avait montrée à McGrath. Et comble de chance, elle lui allait à merveille. Quand il l'essaya, il crut voir le visage brun, encadré de fourrure, d'une jeune fille esquimau, apparaître derrière un fût d'essence. Deux yeux rieurs rencontrèrent les siens, puis la vision disparut. Il restait perplexe. Était-ce un rêve ou la réalité ? Les malades arrivaient et repartaient en une file ininterrompue. La plupart étaient en bonne santé. Ils étaient alors expédiés aimablement et rapidement, en moins d'une minute. Mais certains souffraient de tuberculose ou de cancer très avancé et ne pouvaient attendre que la mort. Thurman savait pourtant réconforter tout le monde. Personne ne sortait du Junker sans avoir été secouru. Tous semblaient heureux d'être venus à la consultation parler de leur misère. La nuit était tombée quand le dernier malade fut examiné. Une nuit grise et pluvieuse qui ressemblait à un crépuscule. Le mois d'août en Alaska est en effet une période de transition entre les nuits claires de l'été et les nuits totales de l'hiver arctique. La tempête secouait l'avion. Le docteur, en bâillant, déroula son sac de couchage. La journée avait été fatigante. Il serait bon, se dit-il, de prendre un jour de repos demain si nous voulons ensuite faire toute la côte esquimaux. Nels était à terre pour vérifier les amarres qui maintenaient le Junker. Il revint accompagné d'un esquimau, un très vieux bonhomme avec des cheveux argentés qui lui retombaient sur les épaules. En voici un qui veut absolument parler au docteur, mais je ne comprends pas un mot de ce qu'il dit. Le visage du médecin s'éclaira. Ah, Asalaluk, A-2-S-A-L-A-L-I-U-K, le doyen du village. Il m'a manqué pendant la consultation. Asalaluk a 107 ans. Et il a même des papiers pour le prouver. Dans le temps, il a été le sorcier le plus connu de la côte. Il était capable de prévoir tout ce qui allait se passer. Bien souvent, ses prédictions se sont avérées justes, mais je crois qu'il a cessé ce métier-là. Eh bien, que puis-je pour toi, Asalaluk ? Le vieillard sourit de ses mille petites rides. Le docteur et lui parlèrent longtemps en esquimau. Une conversation grave. Leur entretien achevé, le médecin resta un long moment la tête entre les mains, l'air soucieux. John, dit-il, Asalaluk me parle d'un rêve qu'il a fait au début de la nuit. Un rêve qui revint plusieurs fois. Il a vu une île, dit-il, une île qu'il a reconnue, Igiak, I-G-I-A-K. Elle se trouve à quelques dizaines de kilomètres d'ici seulement. Sur cette île, il a vu un jeune homme qui se tordait de douleur, couché sur le sol de son igloo. Les frères et le père du malade ont essayé plusieurs fois de mettre leur kayak à l'eau, mais les vagues les ont rejetés sur la plage. La tempête les empêche d'aller chercher du secours. Ce garçon va mourir s'il n'est pas soigné immédiatement. Asalaluk nous demande si nous ne pouvons rien faire pour lui. Qu'en dis-tu, John ? Bien sûr, ce n'est qu'un rêve et je n'y attacherai pas la moindre importance si un autre que ce vieillard me le racontait. John réfléchit en silence. Il se souvint tout à coup de l'avertissement de M. Alaska le jour où le trappeur avait eu un accident de chasse. Dans ce pays, il existait tellement de choses inexplicables qu'on ne pouvait pas les négliger. Il y avait surtout beaucoup de vieux qui possédaient un véritable sixième sens qui leur révélait ce que tous les autres ignoraient. Si nous pouvons trouver un endroit où amerrir, je suis prêt à partir, dit John brièvement. Pour plus de sûreté, je vais faire le plein. Nous aurons peut-être du mal à retrouver Nome avec ce sale temps. Le visage d'Asalaluk s'éclaira en voyant John et Nell sauter au sol et prendre des bidons d'essence dans la soute à bagages. Il se tourna vers le médecin. Ils allumeront un feu sur la plage quand ils vous entendront. La plage gauche de l'île n'a ni pierre ni rocher. Vous pouvez y atterrir. Il serra longuement la main du docteur, puis il remonta lentement vers le village et disparut entre les maisons. Il était exactement 1 heure du matin quand tout fut prêt pour le décollage. La plage de gauche, dit John en consultant la carte. Le vent vient de ce côté-là. Nous ne résisterons pas aux brisants, docteur. Les flotteurs seront mis en miettes. Qu'en penses-tu, toi, Nell, ce vieux chasseur de baleines ? En effet, j'ai vu des vagues dans ces parages, dit Nell avec un soupir. Je me souviens avoir eu là une panne de moteur, une nuit de tempête comme celle-ci. Nous avons dû répandre 100 de litres d'huile de baleine pour calmer les vagues. Tu as raison, Nell. De l'huile. Monte vite au village. Docteur, vous qui connaissez la langue, demandez-leur s'ils veulent nous céder 2 fûts d'huile. En vous attendant, nous mettrons le zinc à l'eau. Thurman revint avec la permission de prendre autant de fûts qu'ils en voulaient. 2 de 195 litres devaient suffire. Ils les roulèrent dans la salle de consultation. « Attention à mes affaires !» leur cria le docteur. « L'huile est bienfaisante pour toutes sortes de choses, mais certainement pas pour la table d'opération. » La baie était à peu près à l'abri du vent. Le décollage fut cependant assez mouvementé. Le Junker tanguait sur les vagues comme un vieux cheval au galop, et John hésita un instant. Ne valait-il pas mieux faire demi-tour ? Après pas mal de soubresauts, ils décollèrent enfin, et virent bientôt une mer démontée au-dessous d'eux. La visibilité devenait de plus en plus mauvaise. Quand la côte est d'Igiak apparut, les rochers étaient si proches que John dut exécuter un virage en épingle à cheveux pour ne pas se fracasser contre la muraille. Les fûts tombèrent et une huile visqueuse et brune se répandit sur le plancher de la cabine. « Fais donc attention !» cria Nell au pilote. « Le plancher est maintenant glissant comme une patinoire !» Et il redressa à grand-peine les 2 fûts. « Oh, pardon, dit John, pardon, la prochaine fois j'irai tout droit, tant pis pour les rochers. » Ils firent le tour de l'île. Au moment où ils passèrent au-dessus des petites maisons de la côte ouest, un grand feu monta vers le ciel. Ils étaient attendus. « C'est du lard de baleine, constata Nels qui s'y connaissait. Ça brûle par tous les temps. » Thurman rejoignit Nels. Il avait quitté sa place pour l'aider à relever les fûts. La salle de consultation ne ressemble plus à rien, grommela-t-il. Pourvu que nous ne fassions pas une glissade dans le vide quand nous ouvrirons la porte. John baissa le régime, fit un large virage et monta contre le vent. Il était descendu à 20 mètres à peine de l'eau et n'osait pas descendre plus bas à cause des coups de vent. La mer était démontée et les vagues venaient se briser sur la plage. La pluie crépitait contre les vitres que léchaient les longs essuie-glaces. « Enlève le couvercle et balance le premier fût à 400 mètres de la côte. Je vous préviendrai. Il reste 10 secondes. » Nels et le docteur eurent du mal à ouvrir la porte. La pression de l'air était trop forte. Ils durent employer toutes leurs forces pour y parvenir. Le premier fût hésitait maintenant sur le seuil. « Si la porte cède, je fais le plongeon du siècle !» gémit Thurman. Le fût tomba comme une bombe sur le dos d'une vague. L'huile se répandit, tel un nénuphar géant. John vira de nouveau, monta contre le vent. « Au suivant, allez-y !» Une nouvelle fleur d'huile, d'un bleu vert éclatant, s'épanouit à côté de la première. Elles se rejoignirent et nivelèrent les crêtes des vagues. Bientôt, une pellicule brillante s'étala jusqu'à terre. La nappe s'enflait, s'affaissait tour à tour, et les vagues rampaient sous elles, domptées et honteuses. Après un troisième virage contre le vent, John amerrit enfin. Le Junker glissa doucement, comme sur de la crème. La plage était lisse et plate, et les Esquimaux s'avancèrent pour retirer l'avion au moment du débarquement. « Va falloir se dépêcher. Avec cette houle, la nappe d'huile dérive. Prends le brancard de réserve dans la soute à bagages, Nels. » Un petit Esquimau leur montra le chemin. C'était le père du malade. Tout concordait avec le rêve d'Assalaliouk. Même ce détail, le jeune homme gisait sur le sol et se tordait de douleur. Personne ne montra la moindre surprise en voyant arriver le docteur. L'île ne possédait pourtant ni téléphone ni radio. Après une rapide auscultation, le médecin donna son diagnostic. « Le ventre est dur comme du bois », déclara-t-il. Le malade a des sueurs froides, les lèvres bleues, des contractures. Il est dans un état très grave. Son appendice est perforé. Ils enveloppèrent le malade avec des couvertures et le transportèrent jusqu'à l'avion. La tache d'huile dérivait vers le nord. « Nous décollons immédiatement, » dit John, et il sauta dans la cabine de pilotage. Le docteur échangea quelques mots avec le père du malade avant de fermer la porte de la carlingue. Les Esquimaux tournèrent l'avion. John fonça sur la nappe d'huile et partit en direction du nord. Les flotteurs reçurent quelques sérieuses gifles avant de pouvoir se détacher de la mer en furie. Attaché sur la table d'opération, le malade se trouvait à l'endroit le moins secoué de l'avion. Thurman chercha une seringue et lui injecta une légère dose de morphine. Sous l'action de l'analgésique, le malade se détendit et ses douleurs se calmèrent. « Appelez Nom !» cria le médecin à John. « Dans combien de temps pouvons-nous être là-bas ?»« Oh, avec ce vent arrière, nous ne mettrons 55 minutes. J'appelle Nom. Excusez-moi si vous êtes un peu secoué, mais la visibilité est de plus en plus mauvaise et je n'ose pas monter au-dessus de 50 mètres. »«
55 minutes, marmotta le docteur. Il a une petite chance.
Si l'ambulance nous attend sur le quai, nous ne mettrons 5 minutes pour aller à l'hôpital et l'installer sur le billard. » Je vais demander au champ d'aviation de se mettre tout de suite en rapport avec mon infirmière et l'interne Miller. Pourvu que nous arrivions à temps. Pourvu que nous arrivions à temps.
Nels, au pied du brancard, suivait tous les gestes du toubib. Mon vieux Nels, on ne plaisante pas avec un appendice perforé. Si on peut opérer très vite, tout se passe généralement bien. Mais si on tarde, chaque minute diminue les chances de réussite. L'opération est très difficile et les risques de péritonite sont grands. Mais ne désespérons pas. La technique opératoire moderne a triomphé de nombreux cas désespérés.
Si seulement il était moins jeune, soupira Nels. Ce n'est rien pour un vieux bonhomme comme moi, mais des jeunes qui ont toute la vie devant eux.
L'avion fit une embardée et le docteur perdit l'équilibre. Il tomba sur le plancher glissant et la seringue lui échappa des mains. Nels la ramassa. Elle était fendue.
La seule bonne seringue à injection que j'avais emportée pour ce voyage, gémit Turman en se relevant. Je ne peux plus rien pour calmer les douleurs de ce gosse.
Docteur ? Oui, John, j'arrive. Dès que j'aurai mis un peu d'ordre ici, tu as un homme ? Demande-leur.
Impossible d'atterrir un homme, docteur. Ils annoncent du brouillard et une visibilité de 5 mètres à peine. Pour le moment, c'est la même chose sur toute la côte ouest de l'Alaska. Nous n'avons le choix qu'entre Anchorage et Fairbanks. Faut-il essayer de retourner à Quick-Pack ? Il nous reste une chance d'atterrir avant que le brouillard ne s'épaississe. Une toute petite chance.
Le docteur Turman pâlit. Il regarda le malade.
Tout aurait donc été vain.
Combien de temps pour aller à Anchorage ? Demanda-t-il.
4 heures et demie. Nous avons de l'essence pour 5 heures. Nous monterons au-dessus des nuages. C'est plus calme là-haut. Ensuite, nous descendrons grâce à leur pylône de TSF. Que faut-il faire ?
Allons à Anchorage, dit le médecin.
4 heures et demie. La mort y sera avant nous. Et si nous allons à Quick-Pack, ça ne vaut guère mieux. Ce dont ce garçon a besoin, c'est d'un hôpital. Mais le temps... Le Junker montait toujours. À 2000 mètres, ils sortirent de ce brouillard épais et laiteux. Le soleil se levait. La mer de nuages avait des reflets roses. Après toute cette grisaille, on avait le cœur plus léger.
4 heures et demie.
Le docteur se pencha sur le brancard. Il tâtait le pouls du malade, écoutait sa respiration, secouait la tête avec désespoir.
« Peux-tu appeler Anchorage d'ici, John ?»«
Pas directement, docteur, mais je peux obtenir le contact avec Nome et leur demander de faire le relais. De quoi s'agit-il ?»
Turman regarda par la fenêtre. Il avait du mal à avaler sa salive. Il serrait les poings, puis il se redressa et enleva sa veste de cuir.
« Fais savoir à Nome que j'ai l'intention d'opérer le gosse ici, dans l'avion. » Demande-leur de prévenir l'hôpital d'Anchorage. Dis que c'est la seule chance qui reste au malade, que je vais l'opérer avec un équipement défectueux et à mes risques et périls. Si l'opération réussit, il faudra prévoir une transfusion de sang et de la pénicilline à l'arrivée. Mon unique seringue est cassée. Si c'est raté, eh ben...
C'est tout, John.
John serra le manche à balai et regarda la mer de nuages. Une opération... À 2200 mètres au-dessus de la mer, dans un Junker, dans son Junker. Il ne fallait pas rater cette opération-là. Il ne fallait pas qu'il y eût de trou d'air. La grande plaine céleste paraissait si calme et si paisible. Mais il savait qu'elle dissimulait des forces violentes, des remous, une lutte constante entre la chaleur et le froid, un véritable volcan pour lequel un avion ne comptait pas plus qu'un papillon. Nell secondait le docteur. Il se lava les mains à l'alcool, mit une blouse blanche, des gants de caoutchouc, sur sa bouche un masque qui s'accrochait au poil de sa barbe. Il ne devrait faire que ce qui lui serait commandé et éviter de cracher et d'éternuer. Les bistouris et les pinces furent stérilisés. On prépara des compresses, une aiguille et du fil pour recoudre la plaie. Parmi les instruments, il y avait aussi un long tuyau de caoutchouc destiné à aspirer le sang. Nels n'aurait jamais imaginé qu'une opération pût nécessiter un outillage aussi important. En dernier lieu, on prépara l'anesthésie. Turman fit une compresse de gaz et la plaça sur la bouche et le nez du patient. Il laissa tomber de l'éther goutte à goutte. Une forte odeur d'hôpital envahit la cabine.
« Regarde bien, Nels. Quand je te préviendrai, tu feras tomber les gouttes de la même façon, mais seulement quelques gouttes à la fois. Compris ?»«
Oui, docteur !»
dit Nels, gêné par le masque.
L'éther commençait à produire son effet. La respiration du jeune malade se ralentit, son corps crispé se détendait. Ils lui attachèrent les bras et les jambes et le couvrir d'un linge blanc, à l'exception de la tête et du ventre. Le docteur tâta la région malade. Prenant un bistouri, Il le fit jouer dans sa main d'un air pensif. Nous voici prêts pour l'opération, John. Si tu pouvais faire monter la température de la cabine de quelques degrés, ce serait parfait. Et puis, de préférence, pas de trou d'air. La chaleur va venir, docteur. Quant au trou d'air, je vais leur dire deux mots. John avait la gorge serrée. Dans le rétroviseur, il voyait la plus grande partie de la cabine. Le médecin qui se penchait, le bistouri entre le pouce et l'index, hésitait une seconde et faisait la première incision. John crut sentir la morsure de l'instrument. Il cessa de regarder pour se concentrer sur son travail de pilote. Une grande masse de nuages blancs se dressait comme une tour et leur barrait la route. Il mettrait peut-être 10 à 12 minutes pour arriver jusqu'à elle, et John apercevait déjà les courants ascendants qui remuaient la masse des nuages. La tour était trop haute pour que le Junker la survolât et trop large pour qu'il osât la contourner avec le peu d'essence dont il disposait encore. Il n'avait pas le choix, mais la traversée signifiait 5 à 10 minutes d'une danse infernale dans les tourbillons d'air. John différa jusqu'à la dernière minute l'annonce de la mauvaise nouvelle. Le docteur Tourman était un chirurgien connu pour sa rapidité et son adresse, mais opéré dans des conditions aussi précaires, le seul fait de ne pas disposer de l'éclairage habituel d'une salle d'opération était un problème. Les petits hublots répandaient une lumière aveuglante dans le Junker avec des jeux d'ombre très gênants. Et comment se passer d'assistants entraînés, sachant passer rapidement un instrument, exécuter un ordre? Nels faisait certes de son mieux, mais on ne pouvait pas demander l'impossible à un chercheur d'or de 76 ans. La partie était très risquée. Un peu plus d'éther, Nels. Le pouls, Nels. Pince. Essuie le sang, Nels. Nels était tendu à l'extrême. Il regardait avec une frayeur enfantine les mystères du corps humain. Ce n'était pas ainsi qu'il s'était imaginé les entrailles d'un homme. Il ne comprenait pas du tout comment le médecin pouvait s'y reconnaître dans cette bouillie rouge sombre. Il était plein d'admiration pour le docteur, calme et attentif. Il essayait de garder la tête froide et de ne pas s'embrouiller pour ne pas mettre le chirurgien dans l'embarras. Il y réussissait très bien, trouvait-il. Mais il sentait que la panique le guettait, que ses nerfs ne supporteraient pas longtemps une pareille tension. Il ne craignait pas de rencontrer la mort sous les traits d'un ours ou au cours d'un duel au fusil. Mais la voir s'approcher ainsi, à la pointe d'un bistouri, c'était sinistre. Le docteur Tourman sentait la sueur perler sur son front. Essuie, murmura-t-il, je veux dire, essuie-moi le front. Nel s'essuya. Il lut de l'angoisse dans le regard du docteur. L'opération tournait mal. Peut-être avait-il commis une erreur. Décompresse stérilisée, vite, Nel. 3, 4. Fin de la première piste de la quatrième cassette. Pilote de l'Alaska par K.A. Schwarzkopf, page 134.